Orleans 100.9
West. Radio X Files
avec Christian Page.
Oh my gosh,
Radio X.
In 1996, the people of Varginha, Brazil, witnessed a UFO event that would change their lives forever.
Call it another Roswell, if you will. It is a crashed vehicle that had beings on board.
Finally, the facts will be revealed.
The Varginha case is considered the most well-kept secret in the military circles of Brazil.
My objective here is to put some clarity on what took place in Varginha, Brazil, January 1996.
This can't be denied. This was proof.
We pulled this off. It'll be the most compelling testimony revealed.
Of contact.
This is a level of confirmation that only a handful of people on this planet have.
Bonsoir, bienvenue dans les Radio X-Files, édition du vendredi 13 février. Christian Page, bonsoir.
Bonsoir, c'est vrai, le vendredi
oui,
13,
on est vendredi
presque
13.
Une malédiction.
Tout à fait. L'extrait qu'on vient d'entendre a mis la table pour le premier sujet de la soirée, qui est un sujet dont j'ai vraiment aucune idée, là, qui est l'affaire Varginha.
Varginha. Oh, Varginha, oui. Ouais. Écoute, c'est un truc, j'ai hésité avant d'en parler parce qu'il y a quelques années, 3-4 ans peut-être, au moment où je faisais cette émission avec Yannick Marceau, on avait fait un segment, en fait, je pense presque toute une émission consacrée à cette histoire qui est très curieuse. Et ben, pour moi, c'était un peu une affaire entendue.
Ouais.
Et je voulais pas être redondant et en reparler à nouveau, mais je me suis fait un peu, disons, rattrapé par l'actualité. Et pourquoi je t'en parle ce soir? Bon, déjà, il y a quand même quelques années qui se sont écoulées depuis l'intervention que j'avais faite sur le sujet. Mais quand même, je veux pas que les auditeurs me disent « Oh, Christian Page se répète. » Il n'y a plus de sujet, donc il se répète.
Ouais,
non, pas
ça.
Du tout. L'actualité m'a un peu rattrapé hein, parce que, bon, ce soir, faut-il le dire, c'est une émission qui est consacrée aux ovnis. Hein, on fait notre retour dans la boucle, on revient à l'émission sur les ovnis. Et le 20 janvier dernier, donc, il s'est tenu au National Press Club à Washington, D.C., qui n'est pas un endroit officiel du gouvernement, là, entendons-nous, là, parce que même si on dit ça National Press Club, on a presque l'impression que c'est un organisme gouvernemental. Non, c'est une salle que toi, moi, n'importe qui peut louer, mais c'est souvent des annonces très prestigieuses qu'on va faire au National Press Club. Puis ça s'appelle encore le National Press Club, là, qui sait, peut-être demain, ce serait le Trump National Press Club, mais parce que... Mais là, pour l'instant, ça s'appelle toujours le National Press Club. Et puis donc, le 20 janvier dernier, il y a eu une espèce de réunion, une conférence de presse qui a été tenue là par un certain James Fox. Et James Fox, pour le situer, c'est un réalisateur de documentaires. C'est un individu très embrigadé dans l'univers des ovnis. Là. C'est-à-dire, il croit à fond aux ovnis, ce qui en soi n'est pas une faute, là. C'est pas une tare.
Non, c'est ça.
On respecte les croyances,
oui.
Là, mais... Je mets la table. On doit comprendre qui est James Fox. T'sais, James Fox, c'est pas l'individu. Si tu parles des ovnis, c'est pas lui qui va faire le preuve du plus grand sens critique. Là. C'est un individu qui est très embrigadé dans le sujet des ovnis. Il a fait quelques documentaires dans le passé sur le sujet. Et ces sujets, ben, on comprend bien, ce sont toujours des sujets pro. Hein, c'est toujours pro-ovni. Et en 2022, c'est ce qu'on a entendu en début d'émission, il a fait un documentaire qui s'appelle Moment of Contact. Et dans ce documentaire, il présentait l'affaire de Varginha comme je vais y revenir. Là, c'est une affaire qui nous ramène en 1996. D'ailleurs, il dit au début de la bande-annonce,
oui.
Hein, ça se passe en 1996. Et donc, il fait cette présentation. Et pour sa présentation, ben, il revient sur cette histoire-là de Varginha qui remonte à 1996. Et pour les besoins de sa conférence de presse, qui, je le rappelle, était le 20 janvier dernier, il avait avec lui trois individus qui ont été de près associés à l'affaire de Varginha. On avait un neurochirurgien, un médecin légiste, un professeur de géologie, à savoir le docteur Italo Venturelli, le docteur Armando Fortunato et Carlos de Souza. Donc, c'était les trois personnes qu'il y avait avec lui. Et également, pas en différé, mais en duplex, Il y avait les témoins principaux. Hein. Il y avait trois jeunes filles qui, à l'époque, avaient observé cette, qui vont être les éléments centraux de cette histoire-là. On parle de Katia Xavier et des sœurs Liliane et Valkyria de Silva. D'ailleurs, de Silva, ici, rien n'arrête pas. Il n'y a aucun lien avec le de Souza. Là, c'est vraiment deux
personnes différentes.
C'est pas, oui, c'est pas... Parce que de Souza, de Silva, non, c'est pas une erreur d'orthographe. Ce sont vraiment des gens différents qui n'ont pas de lien de parenté entre eux ou entre elles. Et donc, les sœurs Liliane Valkyria de Silva et Katia Xavier, c'était des adolescentes ou jeunes adultes. Une qui avait... C'était des jeunes femmes âgées entre 15 et 22 ans qui ont été au centre de cette observation. Et donc, elles n'ont pas pu faire le voyage jusqu'aux États-Unis, mais elles ont accepté de parler. On était en duplex sur un écran, donc elles ont livré leur témoignage. Ben, on est quand même 30 ans, là, de mémoire, là, c'est 26, ouais, ouais. 96 ans, on est 30 ans après ouais. les événements. Donc, elles étaient sur écran pour raconter leur histoire. Donc, et tout ça a ramené, bien sûr, dans l'actualité ufologique, disons ça comme ça, cette histoire qui était un peu tombée dans l'oubli. Même si pour les gens de la communauté de Virginia ou encore pour les gens qui sont brésiliens, cette histoire-là, elle est omniprésente. D'ailleurs, on a entendu dans le commentaire Stanton Friedman, qui est décédé depuis, mais qui, peu de temps après cet événement-là, avait déclaré à un moment donné dans une entrevue, il avait dit « Ah, c'est presque le Roswell brésilien ». Roswell, c'est évidemment, c'est mythique, c'est l'endroit dans le désert du Nouveau-Mexique où... On raconte qu'en 1947, un OVNI se serait écrasé et on aurait récupéré des corps d'humanoïdes, des pilotes de cet OVNI. Donc, quand Stanton Friedman dit « c'est presque le Roswell brésilien », ben, c'est un peu à ça qu'il fait référence à l'époque. Et l'histoire avait énormément alimenté, même aujourd'hui, hein, si on visite la ville de Virginia, qui se trouve au Brésil, ben, on va vite se rendre compte que le château d'eau qui domine la ville, c'est une grosse soucoupe volante, hein, parce qu'on exploite à fond l'histoire.
J'imagine.
Donc, le château d'eau dans la ville, c'est une grosse... On l'a fait construire depuis. Il ressemble à une grosse soucoupe qui domine la ville. Et tout près, on a un musée consacré aux ovnis, dont une grande partie, en fait, tourne autour de l'affaire de Virginia. Donc, comme on a ramené cette histoire-là sur le devant de la scène, là, tout le monde se met à parler de Virginia. Des gens qui m'ont écrit, ils me disent « Ouais, avez-vous déjà entendu parler de cette histoire-là? Qu'est-ce que vous en pensez? » Ben, t'sais, les 3-4 premiers courriels, j'ai répondu simplement « J'en ai parlé il y a quelques années à Radio X-Files, mais là, comme je suis un peu débordé par les courriels, j'ai dit « Bon, ben, je pense que c'est une bonne occasion pour oui. revenir sur cette histoire-là. »
Tout à fait.
Donc, James Fox avait fait ce documentaire en 2022, dont on a entendu, là, j'ai fait un peu un remontage de la bande-annonce, Moment of Contact, où il s'était rendu sur place, avait rencontré les témoins, avait retrouvé des témoins, en fait. Parce que, bon, l'histoire était quand même, lorsqu'il le fait en 2022, là, on est 25 ans après les événements, donc beaucoup de ces gens-là n'habitent plus Virginia, qui est quand même une assez grosse ville. Hein. C'est peut-être une ville qu'on ne connaît pas beaucoup, mais c'est quand même une assez grosse ville, là. Disons que je pourrais comparer, en termes de population, on pourrait la comparer, là, si on était au Québec, à des villes comme Laval, par
exemple. OK, quand même.
C'est une grosse ville. Oui, oui. Alors, donc, voilà. Donc, et ils retrouvent des témoins, puis bon, ces gens-là vont raconter leur histoire. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire et pourquoi on en reparle un peu aujourd'hui? Moi-même, j'avoue que... Puis tu vas comprendre quand je vais te livrer la ouais. chute. Moi-même, j'ai un peu des questions à ce propos-là. Donc, l'affaire se passe le 20 janvier 1996. C'est pas pour rien qu'on avait choisi au Press Club de faire la conférence le 20 janvier, hein, 20
c'est
janvier
donc, oui.
2026. Là, c'était coïncidé exactement avec le 30e anniversaire de l'événement. Donc, on est en milieu d'après-midi à ce moment-là. On a trois jeunes femmes, comme je t'ai mentionné, là, qui sont âgées entre 15 et 22 ans, c'est-à-dire Katia Xavier et les sœurs Liliane et Valkyria da Silva. Et pour se rendre chez elles, il faut quand même comprendre que la ville... Virginia, qui est une assez grosse ville, comme je l'ai mentionné, elle est un peu comme séparée en deux. Il y a comme au milieu de la ville, il y a une espèce de petite dépression dans laquelle il y a bon, des arbres, quelques constructions, tout ça. Et souvent, les jeunes femmes vont passer au travers de cette dépression pour gagner là, un quartier ou l'autre. Hein? Bon, une espèce de raccourci. Mais avant d'arriver à ce petit vallon, bon, les jeunes filles, à ce moment-là, elles traversent l'un des quartiers et elles se disent « Bon, ben, je vais essayer de prendre ils vont prendre un raccourci pour gagner plus rapidement le vallon. Elles pourraient prendre le pont Il y a un pont, effectivement, qui surplombe le vallon. Mais évidemment, on gagne plus de temps à traverser à travers le vallon. Donc, elles empruntent un raccourci. On n'est pas dans le vallon encore. On est juste avant le vallon, deux rues avant le vallon. Il y a comme, entre deux quartiers d'habitation, il y a un terrain vague. Donc, elles entrent sur le terrain vague. Et alors qu'elles traversent le terrain vague... C'est 30 secondes de traverser le terrain vague. Là. C'est un terrain. Là.
C'est juste à côté, oui.
Oui, c'est un terrain. Là. C'est l'équivalent de la longueur de... On pourrait mettre deux bungalows l'un à côté de l'autre.
Okay, c'est
un
terrain comprends.
Grand comme ça.
Ouais.
Donc, au moment où elle traverse le terrain, l'une des jeunes filles s'arrête, la plus jeune s'arrête, elle pointe du doigt un mur. Et on est en pleine journée, là. Il faut quand même se rappeler, là, on n'est pas de nuit, il n'y a pas des conditions d'éclairage mystérieuses, là, on est en plein jour. Donc, la plus jeune des filles va pointer du doigt un endroit vers le mur, et là, il y a une créature qui est là, accroupie. Et elle n'est pas très grande, elle fait à peu près 1,50 m, elle a la peau brunâtre, elle semble nue, hein, elle est comme accroupie, comme on dit okay. au Québec, là, en petit bonhomme. Ouais. Là, elle est accroupie, elle semble nue, les filles ne voient pas de vêtements, elle a la peau brunâtre qui reluit sous le soleil. Elles ont l'impression que la peau est huileuse ou visqueuse. Et au moment où les filles s'arrêtent donc et regardent cette créature, la créature se tourne vers elle et à ce moment-là, elle voit le visage. C'est une tête ronde avec de grands yeux rouges, presque lumineux. Elles sont un peu effrayées et elles diront immédiatement après la rencontre, dans les jours qui vont suivre, ne pas avoir vraiment remarqué si elle avait un nez ou une bouche. Même si elles vont faire des dessins, puis on comprend, bon, des adolescentes, elles vont un peu ajouter un nez puis une bouche parce ça va de soi, là.
Oui.
Mais objectivement, là, quand elles vont raconter le récit au début, elles n'ont pas vraiment remarqué si elle avait un nez ou une bouche. Mais ce qui les a frappés, bien sûr, ce sont ces deux gros yeux rouges, très lumineux. Et sur la tête de la créature, elles notent également trois petites bosses qui font penser un peu à des cornes atrophiées. Là, Et là, donc, elle voit ça. Ce sont des jeunes filles, hein, qui sont très religieuses. Hein. Il faut savoir qu'au Brésil, l'Église portugaise est très... l'Église catholique portugaise est omniprésente et les gens sont très, très croyants. Hein. En fait, tous les pays de l'Amérique latine sont particulièrement croyants. Là. Il suffit d'avoir été au Mexique, par exemple, dans l'Honduras ou dans d'autres régions d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud pour voir à quel point le catholicisme est encore omniprésent. Puis là, je ne fais pas un jugement de croyance, là, mais tu sais, c'est ça. Si dans le monde occidental, il y a une espèce de désaveu par rapport à l'Église, ce n'est pas ce qu'on retrouve en Amérique latine. Et donc, elles sont très croyantes, et en voyant ces créatures avec des bosses sur la tête, elles pensent immédiatement qu'elles ont vu un démon. Hein, c'est un démon,
il y a des cornes. Parce donc, que, bon, la religion est présente et qui...
Oui, c'est ça. Donc, ils font une association, il doit s'agir d'un démon. Donc, elles partent à courir et elles vont donc traverser le terrain vague, traverser les deux rues qui suivent, entrer dans le fameux vallon dont je te parlais et remonter de l'autre côté du vallon. Et là, elles vont se rendre chez la famille Da Silva. Là, je vais mentionner les deux filles, c'est Liliane et Valkyria Da Silva. Elles arrivent chez les Da Silva. Et là, elles sont accueillies par Madame Da Silva qui est là. Et là, donc, les deux sœurs racontent à leur mère ce qu'elles ont vu, la créature sur le bord du mur. Et donc, Madame Da Silva écoute leur histoire. Elle prend ça un peu à la légère, tu sais, ça la fait sourire, bon, une créature, ben, tu sais, on essaie de se mettre dans la peau du parent quand il entend ces deux adolescentes qui racontent ces trucs.
Qu'est-ce qu'elles sont en train de m'inventer,
c'est ça. Puis là, évidemment, on se dit, bon, elles ont probablement... Mais elles sont quand même dans un état assez choqué, donc la mère ne doute pas qu'elles ont vu quelque chose. Mais évidemment, la description qu'elles font, c'est un peu une description sortie tout droit de la science-fiction. Ces gens-là ne sont pas intéressés. La famille Da Silva, ce n'est pas des gens qui s'intéressent aux ovnis. On ne trouve pas chez eux des livres sur les ovnis. Ce ne sont pas des gens abonnés à des magazines sur les ovnis. Ce sont des gens très pieux, très religieux, très catholiques. Et donc, elle écoute le récit. Et Madame Da Silva pense pendant un moment appeler son mari au travail. Puis elle se dit, je suis quand même pas pour le déranger en milieu d'après-midi pour lui dire les filles ont vu un démon sur le bord d'un mur. Fait qu'elle réussit à convaincre une voisine de l'accompagner jusqu'au terrain vague. Les filles, elles, refusent de retourner sur le terrain en question. Mais finalement, Madame Da Silva, les filles lui donnent l'endroit où elles ont vu la créature. Donc, elle y va avec une voisine. Et quand elle arrive au terrain vague en question, ces créatures qui lui a eu, elle n'y est plus.
Donc, évidemment.
Et là, elle s'approche près du mur où les filles disent avoir vu la créature. Et elle note que dans l'air, elle sent une espèce de d'odeur d'ammoniac. Et les filles lui ont mentionné ça. Hein? Au-delà de la description physique de la créature, les filles ont mentionné qu'il y avait dans l'odeur une espèce d'odeur d'ammoniac. Et donc, quand Madame Da Silva arrive près du mur, elle voit, elle a l'impression que l'herbe a été un peu piétinée sur le bord du mur, mais ce qui la frappe, bon, elle dira plus tard, elle ne le dit pas à ce moment-là, mais des années plus tard, elle va dire « J'ai cru voir une impression comme d'un pied qui ressemblait un peu à un pied à trois doigts, comme le pied d'une autruche ou quelque chose comme ça. » Mais il faut prendre ça avec parcimonie parce que ça ne fait pas partie du récit original. Et dans toutes les histoires, que ce soit des histoires de fantômes, d'ovnis ou n'importe quoi, même dans des histoires ordinaires, hein, un accident d'automobile, avec les années, parfois, les gens vont ajouter des détails ou minimiser d'autres détails qu'ils avaient mentionnés à l'époque. Donc, le récit, évidemment, scolaire se transforme un peu avec le temps. Mais originalement, Madame Da Silva ne dit pas voir une trace, une empreinte au sol. Elle dit que l'herbe est collée et elle sent cette espèce d'odeur dans l'air, une espèce d'odeur d'ammoniac. Alors bon, ben évidemment, on retourne à la maison, puis bon, ça se termine là. Ça se met à se parler un petit peu dans le village, et là, au moment où l'histoire commence à circuler, on apprend que cette même journée du 20 janvier, mais cette fois-là, plusieurs heures avant l'observation des jeunes filles, quelque part dans un petit village qui se trouve à peu près à une dizaine de kilomètres de Virginia, des gens qui habitent sur une plantation de café. Il faut savoir que cette région-là est particulièrement riche en plantations de café. Donc, des employés et en même temps qui habitent des habitants de ce petit village, qui travaillent sur une plantation de café, vont raconter avoir vu ce matin-là. Donc, on est des heures avant l'observation des jeunes filles sur le terrain vague. Ils vont dire avoir vu une espèce d'objet. On était à la levée du jour, un objet qui ressemblait un peu à une forme de cigare. Et cet objet-là volait en descendant vers le sol. Donc, ils l'ont observé pendant quelques secondes. Ce qui les a frappés, c'est que sur le côté de l'objet, il y avait une espèce de déchirure d'où sortait une fumée blanchâtre. Et ils ont cru que l'objet était sur le point de s'écraser. Donc, ils l'ont regardé et l'objet traversait le ciel, puis il est disparu derrière un bouquet d'arbres un peu plus loin. Bon, merci, bonsoir. Et là, donc, cette histoire-là vient s'ajouter à l'observation des jeunes filles et de leurs créatures mystérieuses sur le terrain vague. Et là, au fur et à mesure que cette histoire-là grossit, prend de l'ampleur, ben on apprend que dans la même matinée, apparemment, les pompiers et les services de police, ainsi que l'armée, seraient intervenus à deux endroits différents pour, apparemment, au départ, on dit, des gens s'étaient plaints de la présence. On est un peu dans un autre quartier qui s'appelle le quartier de Jardimander. Des gens rapportaient avoir vu un animal inconnu, qui pourrait peut-être être un jaguar. Donc, apparemment, les militaires vont se rendre là avec les pompiers. Pompiers, d'ailleurs, qui sont sous contrôle militaire. C'est une force d'intervention qui fait partie, qui est une branche liée au service militaire. Oui. Donc, les pompiers arrivent sur place avec les militaires. Et là, le récit devient de plus en plus... C'est un peu comme une boule de neige, le récit grossit. Ouais, donc, j'imagine. Les gens qui sont témoins de ça disent « Nous, on a vu les militaires entrer dans le boisé, puis là, ensuite de ça, ils sont ressortis du boisé. » Puis là, je te raconte ça rapidement parce que je vois le temps qui file. Là, mais bon, ils sortent du boisé, ils ont deux sacs, et l'un de ces sacs, apparemment en tissu, semble bouger encore, comme s'il y avait une créature à l'intérieur du sac. Ils sont placés dans un camion militaire, et là, ce camion va prendre la direction, en fait, d'un hôpital, qui est en fait le plus grand hôpital de Virginia, qui s'appelle l'hôpital Regional. Donc, on se présente à l'hôpital avec nos fameux sacs. Là. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Là, une rumeur raconte que dans les heures qui suivent, l'hôpital est placé sous contrôle militaire pendant à peu près 24 à 48 heures. On ne sait pas trop ce qui se passe.
Parce qu'ils sont entrés avec quoi dans les sacs, c'est ça?
Oui, c'est ça. Qu'avait-il dans les sacs? Et là, oui. Finalement, on apprend qu'après 24 à 48 heures, peu importe ce que c'était, là, mais la créature ou les créatures ou les jaguars, ça peut être aussi ça, est transporté vers un autre hôpital plus petit, mais toujours à Virginia, qui est l'hôpital Humanitas, pardon. Et cet hôpital, comme il est plus petit, ben, il est plus facile à en contrôler les accès.
OK, d'accord. Là,
appelons ça la bébite, la patente, ou ce qu'on a trouvé, notre sac de jute.
La chose.
Six sacs de jute, il y avait la chose. Donc, il est à l'hôpital Humanitas pendant à peu près 24 heures. Et là, toujours selon les récits, hein, je veux dire, on rend, bon, la chose en question va être sortie de l'hôpital Humanitas. Elle va être apparemment, on va raconter qu'elle aurait été autopsiée. Et ensuite, elle est envoyée vers l'Université d'État à Campinas, qui se trouve à 300 km plus au sud de Virginia. Et de là, à peu près, on perd sa trace. Bon, des récits vont raconter qu'elles ont pris la direction de Buenos Aires ou quelque chose comme ça, ou éventuellement elles auraient été ramenées en Honduras, transférées dans un avion militaire et éventuellement aux États-Unis. Mais là, bon, on s'éloigne de plus en plus du récit original. Ce qui est intéressant, c'est on oublie tout ce mythe qui se crée là, dans les jours, les semaines et les mois. D'ailleurs, on va apprendre quelques mois après qu'un des militaires ou des pompiers qui serait intervenu, qui aurait aidé à récupérer la créature, aurait été griffé par cette créature, un certain Marco Cherezé, et il serait décédé rapidement. Là. Il aurait développé une infection galopante et il serait décédé assez rapidement. Mais quoi qu'il en soit, si on oublie tout ce récit qui avec les semaines et les mois, devient de plus en plus énorme. Et là, des gens racontent, oui, j'ai vu la machine écrasée au sol. Plus on en parle, c'est un peu comme la saucisse high grade. Ouais, hein. Plus on en parle, plus il y a des histoires qu'on ajoute. Mais ce qui est intéressant, si on regarde essentiellement, on revient au récit de base. On a ce témoignage de ces jeunes filles qui racontent avoir vu cette créature. On ne sait pas trop ce que c'est. On a aussi apparemment l'intervention des militaires presque de manière... Est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est lié? Mais il n'y a aucun doute que les militaires vont intervenir dans un petit boisé du quartier de Jardimander. Et d'ailleurs, ils vont être questionnés par les autorités. Et c'est là que... J'ai un petit peu de misère, hein, parce que quand on va questionner, et là, on parle d'une version officielle, hein, je veux dire, c'est la version officielle. Quand on a demandé aux militaires quelle était la réalité de cette histoire-là, ils ont minimisé l'affaire, évidemment, et en conférence de presse, le chef de la police, qui était de chaque côté avec des militaires, ont répondu que oui, ils ont confirmé qu'ils étaient intervenus dans le boisé de Jardimander. Okay. Mais c'était pour récupérer non pas un jaguar, mais c'était pas non plus pour récupérer des créatures extraterrestres. Et là, je sais, ça va faire sourire, mais c'est la version officielle. Ils ont récupéré un couple de nains, oui, oui, des petites personnes, et qu'ils ont amenés à l'hôpital Humanitas. La femme était enceinte et éventuellement son état était critique. Et ils ont finalement décidé de la transporter à l'hôpital. Ils l'ont transférée donc à l'hôpital Humanitas, qui demandait des soins particuliers. Donc, la créature ou l'animal trouvé dans le boisé, c'est ni un jaguar ni un extraterrestre, mais un couple de nains dont la femme est enceinte. Quant à la créature observée sur le bord du mur, la version officielle, c'est que les filles ont vu simplement un vagabond. Hein, qui était difforme. Okay. Mais là, ça fait beaucoup de difformes et de malades dans le même temps. Il y avait un apparemment dans le village, dans la ville de Virginia, il y aurait un indigent qui souffrait de malformation. Et c'est cet indigent que les jeunes filles auraient vu en train de faire caca ou pipi sur le bord du mur et qu'elles auraient confondu à une créature mystérieuse.
Ouais.
Voilà où est-ce que ça nous laisse.
Ça, c'est les versions officielles.
Tout à fait. Ce que je viens de te livrer là, c'est la version officielle. C'est pas une version des ufologues.
Tiré par les cheveux.
Oui, c'est la version officielle. Donc, c'est là où on en est. Quelle est cette histoire de Virginia? Ben, j'avoue que l'histoire ufologique, hein, l'histoire de l'OVNI, l'extraterrestre qui se sauve, capturé par les militaires, me paraît tiré par les cheveux. Hein. Je refuse de croire ça. Mais en même temps, je refuse aussi de croire la version officielle. Il y a quelque chose qui ne va pas. À mon avis, puis là, c'est une opinion qui me concerne personnellement. Là, c'est même pas une hypothèse, c'est rien qu'une opinion. Moi, je me suis posé la question quand j'ai lu les premiers récits. Puis là, je sais qu'on n'a plus de temps, mais la première question que je me suis posée, c'est qu'au Brésil, il y a beaucoup de singes, hein, notamment des singes hurleurs. Je me suis posé la question, quand on regarde la petite créature, tout ça, est-ce qu'on ne serait pas en présence de... Je ne sais pas pour la créature capturée dans le bois, tout ça, mais est-ce qu'on n'est pas... Il n'y a pas quelque chose ici que les autorités auraient voulu dissimuler, du genre un animal de laboratoire, un singe, un primate qu'on aurait gardé en laboratoire, qui aurait souffert d'alopécie, hein, d'une perte de poils, puis un animal sans poils, un chien, enfin, qui regardait un chat sphinx qui n'a pas de poils, puis déjà, c'est assez curieux. Fait qu'imagine-toi, là, on a dans un laboratoire où on aurait fait des tests sur des animaux et des singes qui auraient été atteints d'une maladie particulière, ou un singe qui aurait été, ou plusieurs singes qui auraient été atteints d'une maladie à qui on aurait inoculé une bactérie ou peu importe, qui auraient perdu leurs poils et qui se seraient échappés du laboratoire. Donc, on se retrouve dans une ville où on a deux ou trois singes en liberté qui se sont échappés d'un laboratoire, qui ont peut-être été inoculés par un virus quelconque. Ça pourrait expliquer ce que les filles ont vu et ça pourrait expliquer pourquoi les autorités ont inventé une histoire qui ne tient pas debout. Là. Le couple de nains avec la femme enceinte, ça ne tient pas debout. Là. On est d'accord avec ça. Et c'est moins exotique qu'un extraterrestre qui s'est échappé d'une soucoupe volante, tu comprends?
Oui.
Mais en même temps, comme je te dis, c'est même pas une hypothèse. Hein. Je te lance ça comme ça, je te dis, bon, si je devais essayer de trouver une idée qui me paraît plus vraisemblable, mais j'ai aucune preuve, tu sais, je veux dire, et c'est
non,
libre à quiconque. C'est libre à quiconque. Si les gens veulent croire à l'histoire de l'OVNI, l'extraterrestre, c'est libre à eux. Si les gens veulent croire au couple de nains, ben, libre à eux aussi. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui est étrange. Hein? Quand on regarde ça, là, on prend un peu de recul, on dit, c'est quand même une histoire étrange. Si les autorités s'étaient pas embarquées dans une hypothèse ou une explication aussi fantaisiste, je pense que l'histoire serait probablement morte de sa belle mort. Mais le fait qu'on a cette version officielle si ridicule, on comprend que ça donne de l'eau au moulin aux gens qui disent ben, « les autorités nous cachent des choses », etc. Mais bref, pour l'instant, l'affaire de Virginia, non, je n'ai pas une explication définitive. C'est le gros point d'interrogation. Et là-dessus, on peut aller à la pause.
Tout à fait. on va poursuivre au retour avec la thématique des ovnis qui prennent encore, qui ont toujours la cote au cinéma, mais on en parle tout de suite au retour de ces quelques messages. Restez là.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
Nous devons interrompre notre édition. On nous fait part d'une menace visant à rendre public des documents officiels longtemps tenus secrets.
Non. Il y en a d'autres, tu penses?
Les gens ont droit à la vérité.
Qu'est-ce que tu vas faire?
Je vais tout révéler au monde entier, une fois pour toutes.
Alors, il n'y aura pas de retour en arrière.
Demain ne ressemblera à aucun autre jour.
On est de retour dans les Radio X-Files édition de ce vendredi 13 février. Oui, vendredi 13, où on va parler d'OVNI encore après cette pause. Et où tu mentionnes, Christian, que les OVNI ont encore la cote. C'est encore très populaire au cinéma. Hein?
Oui, effectivement. Et je regardais cette semaine dans l'actualité. Puis on apprend minimalement qu'au cours des prochains mois, il va y avoir trois nouveaux films qui vont sortir. On ne sait pas trop encore, pour deux d'entre eux, on n'a pas encore des dates de sortie. On ne sait pas si ce sera des films pour la télé ou des films au cinéma. Mais l'un d'entre eux, celui dont on vient d'entendre la bande-annonce,
oui,
c'est le film Disclosure Day, dont on a entendu la bande-annonce en français. C'est le nouveau film de Steven Spielberg qui renoue avec les extraterrestres. Hein.
C'est E.T. 2.
Ouais, c'est ça. Donc, avant, il y avait eu la rencontre du troisième type.
Oui.
Ensuite, il y a eu E.T. Et là, donc, Spielberg avait mis de côté un peu les histoires d'extraterrestres. Et voilà qu'il revient avec Disclosure Day. Le film est prévu pour une sortie à l'été 2026. Ça met en vedette Emily Blunt et Josh O'Connor. comme c'est souvent le cas dans l'univers de Steven Spielberg, il y a une espèce de secret gardé sur le synopsis du film. Donc, quand on regarde même la bande-annonce, ça ne nous apprend pas grand-chose. Okay. Ce que l'on sait de ce qui a coulé, en fait, c'est qu'il y aurait Emily Blunt qui incarne une employée de la télévision. En fait, c'est une speakerine qui fait la météo. Et elle, à un moment donné, après une série de circonstances, elle se trouve un peu comme le canal d'un extraterrestre et elle va révéler l'existence des extraterrestres au reste du monde alors qu'elle est à l'écran à ce moment-là, en plein direct. L'extraterrestre va prendre possession d'elle et livrer un message à l'humanité. Donc, c'est le Day of le Disclosure Day, c'est celui-là. Et ensuite, bien évidemment, tout ce que ça va entraîner comme révélation. Donc, ça promet. La bande-annonce est intéressante. Puis bon, les films de Spielberg, c'est toujours en soi des événements ne pas ratés.
Habituellement, c'est toujours d'excellents films, oui.
Oui, c'est ça. Donc, c'est rare que Steven Spielberg tombe aux côtés de la plaque, là. Et il y a un public pour ça. Puis je pense qu'on l'a vu à toutes les fois où il a abordé le sujet du fantastique. Les gens accourent et les gens sont présents en salle. Donc, j'ai l'impression que ça va être un autre succès pour Steven Spielberg. Et à travers ça, on apprend qu'il y a deux autres films en préparation qui reprennent des histoires d'ovnis populaires. Donc, on a appris là, au cours des derniers jours qu'il y a le réalisateur Scott Cooper, que je ne connais pas, mais qui a tourné des œuvres comme Crazy Heart, Les Brasiers de la colère, Affamé, bon, et d'autres. Et il a annoncé qu'il travaillait sur un projet qui allait reprendre l'affaire de Roswell. Donc, Roswell, j'en ai parlé un petit peu en début en première partie d'émission. C'est ce grand classique de l'histoire des ovnis où on aurait récupéré un engin extraterrestre dans le désert de Roswell en juillet 1947. Il faut quand même préciser que je ne sais pas quelle est la tournure et quelle va être la façon dont on va présenter le film au public, mais il faut quand même savoir que l'affaire de Roswell, même si encore aujourd'hui, c'est pour les amateurs d'ovnis, c'est un peu comme un Saint Graal, il faut quand même le dire, cette histoire-là a été quelque part un peu déboulonnée par les militaires qui affirment que cette histoire de Roswell n'était rien de plus, puis j'avoue, et là je sais que des gens vont m'en vouloir, puis probablement, tu sais, brûlez-le. Mais, mais l'une des. la version officielle de l'armée qui est arrivée, parce qu'au début, dans l'affaire de Roswell, il y a cet objet, l'armée va récupérer les débris, et quelques heures après cette récupération, en fait, Roswell, c'est grosso modo 48 heures en 1947. Hein. Souvent, quand les gens disent « Ah, l'histoire des ovnis remonte aux années 40 avec l'affaire de Roswell », non, pas du tout. En 1940, ce qui a lancé l'histoire des ovnis, c'est une observation d'un type qui s'appelait Kenneth Arnold. L'affaire de Roswell n'existe pas en 1947. Ça va durer pendant 48 heures, puis c'est vite oublié. C'est même pas... Et pendant pratiquement 30 ans, on n'entendra plus jamais parler de cette histoire-là. Grosso modo, il y a cette histoire, un rancher du nom de Mac Brazel dit « J'ai trouvé des débris étranges sur mon ranch. » Et puis, 48 heures après, l'armée dit « Ben voilà, c'était simplement un ballon météo. Merci, bonsoir, on passe à autre chose. » Cette histoire de ballon météo, évidemment, elle ne percole pas nécessairement chez tout le monde. On se dit « C'est quand même curieux. Mm-hmm. Hein? Ballon météo, puis la base de les militaires de Roswell n'ont pas été en mesure d'identifier que c'est un simple ballon météo. » Il y a comme quelque chose qui cloche dans cette version-là. Et puis, au milieu des années 90... On est grosso modo 50 ans après l'affaire de Roswell. L'armée américaine, je n'entrerai pas dans le détail, mais le département de la défense va être un peu obligé par les tribunaux de rouvrir l'affaire de Roswell. Et ce qu'on va apprendre, ils vont trouver des milliers de pages de documents sur cette histoire-là. Et donc, si c'est un complot, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dans l'ombre pour faire des faux papiers, là. Hein, parce que c'est vraiment des milliers de pages qu'on va découvrir sur cette affaire-là. Et ces milliers de pages révèlent qu'en fait, l'objet, c'était pas un simple ballon météo. Le ballon météo, c'était vraiment un écran de fumée. Okay. Mais ça cachait pas un engin extraterrestre. Ce que ça cachait, c'est que les militaires, à l'époque, travaillaient à un projet d'espionnage ultra top secret qui visait à espionner les Soviétiques, à savoir si les Soviétiques possédaient l'arme atomique. Et on avait proposé l'idée de placer en haute atmosphère des ballons qui étaient équipés d'équipements acoustiques qui auraient pu entendre, entre guillemets, là, entendre une détonation d'une bombe atomique du côté des Soviétiques. Et ce train de ballons le ballon en lui-même n'était pas secret, c'était plutôt la mission qui était secrète. Ce train de ballon faisait partie de ce projet top secret qu'on appelait projet Mogul. Et donc, c'est ce projet Mogul qu'on a voulu dissimuler. Et c'est pourquoi quand les militaires de Roswell ont mis la main sur cet objet-là, ils ont dit, ben c'est quoi? On ne sait pas ce que c'est, ça ne vient pas de chez nous. Mais on peut comprendre qu'à 100 km de là, à la base d'Alamogordo, eux qui avaient lancé le ballon Mogul, quand ils ont vu dans les journaux cette histoire-là, ils ont vite compris qu'il fallait récupérer le ballon et dissimuler l'histoire. Et c'est ainsi que le mythe de Roswell est né. Donc on a créé une fausse histoire pour dissimuler, pour pas que les gens découvrent que les Américains travaillaient à un projet secret pour espionner les Soviétiques. Donc l'objet de Roswell n'était rien de plus, selon la version militaire, à laquelle j'adhère. Je l'avoue, là, j'adhère, n'était qu'une dissimulation sur un projet top secret qui était le projet Mogul. Okay. Bref, cette histoire de Roswell, ça va faire bon. Il va y avoir un nouveau film. On n'a pas encore la date de sortie. Ce sera réalisé par Scott Cooper. Je tiens à rappeler que l'affaire de Roswell n'en est pas non plus à sa première adaptation à l'écran. En 94, dans un film pour Showtime, un film fait pour la télévision, il y avait eu un film qui s'intitulait tout simplement Roswell, qui mettait en vedette Kyle MacLachlan et Martin Sheen, qui reprenait grosso modo l'histoire de la soucoupe écrasée, de la récupération de l'OVNI des cadavres d'extraterrestres. Et avant ça, il y avait un film en 1980 qui lui était sorti au cinéma, qui s'appelait Hangar 18, qui mettait en vedette Darren McGavin et Robert Vaughn, pour les plus vieux. Robert Vaughn, c'était un des agents très spéciaux là, dans une série populaire des années 60. Et c'était un peu inspiré de l'affaire de Roswell. Donc, on avait récupéré une soucoupe volante qui était gardée dans un hangar, puis bon, il y avait tout un secret qui entourait ça. Et ça s'intitulait Hangar 18, donc librement inspiré de l'affaire de Roswell. Donc, je ne sais pas quelle va être la teneur de ce film qui doit sortir, réalisé par Scott Cooper, mais techniquement, ce sera donc le troisième film adapté, plus ou moins, de manière plus ou moins assidue, à l'affaire de Roswell. Et puis, il y a un troisième film qu'on nous annonce. C'est en fait une révélation de Demi Moore qui est passée à la télévision dans une entrevue. Elle a dit qu'elle travaillait un film avec Coleman Domingo et que ce film-là allait s'intituler Strange Arrival. Et le film Strange Arrival serait basé sur l'histoire, le prétendu enlèvement par des extraterrestres du couple Betsy et Barney Hill. Là encore, 30 secondes pour rappeler cette histoire-là. On est en septembre 1961. Ce couple, hein, c'est un couple interracial. Aujourd'hui, ça fait partie des mœurs, là, mais en 1961,
oui, c'était
un couple interracial, c'était moins fréquent, et surtout en Nouvelle-Angleterre. Donc, on a ce couple qui sont allés au chute du Niagara, qui est allé au chute du Niagara. Le couple est passé par Montréal, et ensuite, le couple est retourné aux États-Unis. Ils habitaient à Portsmouth, au New Hampshire. Donc, ils ont roulé là, jusqu'à peu près à Quatico, et ensuite, ils ont traversé la frontière américaine, ce qui les amenait à traverser les White Mountains vers Portsmouth. Et là, ils racontent, on est dans la nuit du 19 au 20 septembre 61, qu'ils ont vu une lumière dans le ciel, et puis bon, éventuellement, un épisode un peu étrange, ils voient l'objet, d'un coup, ils ont l'impression de s'endormir, et quand ils vont rouvrir les yeux, ben, ils sont à 50 km de Portsmouth, puis ils ignorent
Pourquoi ils ont fait le trajet qu'ils ont fait,
comment ça fait qu'ils sont rendus là. Fait que finalement, ben, ils arrivent chez eux, ils constatent qu'ils arrivent plus tard que prévu. Et donc, éventuellement, ils vont consulter et sous hypnose, et le médecin qu'ils vont consulter va les placer en état d'hypnose. Et sous hypnose, ils vont raconter avoir été enlevés par des extraterrestres alors qu'ils roulaient sur la Nationale 3. Il faut bien le dire, le médecin va conclure que cette histoire-là est une pure invention. Hein? Okay. Ils ont fantasmé cette histoire-là. Mais tu comprends, cette histoire-là va quand même faire l'objet d'un livre en 1965 par un journaliste assez réputé qui s'appelle John G. Fuller, mais qui fait beaucoup dans le fantastique quand même. Fuller, là, il aimait beaucoup les histoires d'ovnis et de fantômes. C'est un peu son dada. Mais c'est un journaliste du Life Magazine. Et donc, il va publier un livre qui va devenir en fait le premier best-seller vraiment sur les ovnis, qui s'intitule The Interrupted Journey, le voyage interrompu en français, et qui raconte l'histoire des îles. Mais évidemment, on y va plutôt dans le sens de l'enlèvement par des extraterrestres et non pas un fantasme inventé comme ça au gré des semaines. Là, donc, la version du médecin est mise de côté. Même s'il est mentionné en Fuller dans son livre au début, il prend deux phrases pour dire le docteur Benjamin Simon qui a placé les îles sous hypnose croit que c'est un fantasme.
C'est dit.
C'est tout?
Passons à autre chose. Oui, oui, ça. OK, c'est dit. Maintenant, allons-y vers l'extraterrestre. Donc, on fait beaucoup dans l'extraterrestre, mais cette histoire-là, elle est devenue un peu une histoire un peu phare dans l'univers des ovnis et principalement dans l'univers des enlèvements extraterrestres. Donc, dès que, en fait, je te dirais que c'est plus que l'événement phare, c'est l'événement étalon. C'est-à-dire qu'à partir de lui, on a l'impression que toutes les autres histoires d'ovnis, d'enlèvement par des extraterrestres, on va toujours un peu y retrouver un petit parfum de l'histoire de Betsy et Barney Hill, soit du temps manquant, ou des extraterrestres. Parce que quand les Hill étaient à bord du vaisseau spatial, ils racontent qu'ils ont été soumis à des examens médicaux, sont fait rentrer une sonde dans le nombril. En fait, on retrouve ici le canevas qui va servir un peu de trame de fond à toutes les autres histoires d'enlèvement extraterrestre qu'on raconte encore aujourd'hui, là, en 2026. Là, ça continue ces histoires-là, avec toujours, évidemment, pas de preuves. Mais bon, on se dit à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va dans cette soucoupe et il va bien nous voler un cendrier.
On
va
avoir
un cendrier extraterrestre.
Ouais.
Un souvenir, mais bon, ça n'arrive pas. Mais bon, et donc, donc Demi Moore nous dit, ben voilà, je travaille actuellement ce film, Strange Arrival. On n'a pas encore une date de sortie. Elle va incarner Betty Hill. Coleman Domingo va incarner Barney Hill. Dans le couple, Barney était le noir et elle était la blanche, la caucasienne. Donc, ils vont reprendre ces rôles-là au cinéma. Et pourquoi je dis reprendre ces rôles-là? Parce que ce n'est pas la première fois que l'histoire du couple Hill est portée à l'écran. En 1975, on avait fait un film qui s'appelait The UFO Incident, qui avait été présenté, c'est un film pour la télévision, qui avait été présenté par sur le réseau NBC. Et cette fois-là, le couple est incarné par James Earl Jones, qui avait la voix de Darth Vader.
Oui. Luke, I'm your father.
En fait, il n'a jamais dit Luke, il dit I'm your father. Et donc, il y a James Earl Jones qui incarnait Barney Hill et Estelle Parsons qui incarnait Betty Hill. Et ce film-là, donc, The UFO Incident, était directement inspiré du livre dont je t'ai parlé de John J. Fuller, The Interrupted Journey. Et simplement pour te dire que ce film de 1975, moi, j'ai beaucoup apprécié ce film-là. On s'entend bien, c'est un film tourné pour la télévision, donc pas d'effet hollywoodien, là. Mais ce qui est bien dans ce film de 1975, c'est qu'on n'essaie pas de nous convaincre qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres. C'est-à-dire que tout le film se passe pratiquement avec, encore une fois, le James Earl Jones et Estelle Parsons qui incarne le couple Hill. Ça se passe pratiquement tout le long du film dans le cabinet du docteur Simons. Donc, ils sont placés sous hypnose. Et là, sous hypnose, ils racontent leur histoire. Mais ils le racontent toujours comme étant sous hypnose, tu comprends? Et donc, toi, le téléspectateur, tu regardes ça, c'est le récit qu'il raconte sous hypnose, ce qui est tout à fait véridique.
Oui.
Et on a l'acteur, le comédien qui incarne le Dr. Simons, qui est toujours un peu partagé, tu sais. Oui, bon, est-ce qu'ils disent la vérité? Est-ce qu'ils ont inventé ça? D'où vient le fantasme? Même à un moment donné, il leur dit, hein, dans le film, il leur dit que ce qu'ils voient, c'est un fantasme, hein, parce que le couple dit non, on croit qu'on est enlevé par des extraterrestres. Et le médecin lui dit, ben, vous savez, dans la nuit, hein, on se réveille, du linge sur un fauteuil ou sur une chaise peut nous faire penser à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Ou, tu sais, tu comprends?
Oh,
il
oui,
essaie de les amener à comprendre que finalement, tout ce qu'il raconte n'est peut-être qu'un fantasme. Et le film se termine un peu là-dessus. Bon, le film rajoute un petit détail à propos d'une histoire de carte stellaire, là, parce que bon, dans le vaisseau spatial, Betty Hill dit qu'elle a vu que les extraterrestres lui auraient montré une carte de leur provenance, d'où ils venaient. Et cette carte-là, ben, les amateurs d'OVNI l'ont associée à un système qui dans la constellation du Réticuli qui s'appelle les étoiles Zeta 1 et Zeta 2 dans la constellation du Réticuli. Puis encore aujourd'hui, il y a des amateurs d'OVNI qui défendent cette interprétation-là, mais de toi à moi, là, puis rien que nous deux qui nous écoutent, là. C'est de la foutaise. Ça, c'est l'histoire de la carte, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise pour plusieurs raisons. D'abord, la personne qui est arrivée à cette conclusion-là a fait une sélection là, tout à fait arbitraire des étoiles qu'elle choisissait pour mettre dans son modèle. Parce qu'en fait, la carte de Betty Hill, Betty Hill ne dit pas « les extraterrestres viennent de Zeta du Réticuli ». C'est une interprétation, c'est une astronome amateur qui s'appelle Marjorie Fish, qui avait fait une espèce de modèle en 3D. C'est elle qui arrive à la conclusion qu'il doit s'agir de Zeta du Réticuli. Mais quand on regarde son travail, c'est un travail bâclé. Elle a fait une sélection arbitraire des étoiles et elle a déterminé imaginer qu'autour des étoiles, des états d'Irriticulé, il devait y avoir des planètes autour qui devaient ressembler à la Terre et avoir des formes de vie. Mais on sait aujourd'hui qu'autour de Zeta Reticuli, je n'entrerai pas dans le détail de l'astronomie, mais s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont des spécialistes de l'astronomie, ils vont comprendre de quoi je parle. La métallicité des étoiles ne permet pas d'avoir des planètes de type tellurique, c'est-à-dire des planètes comme la Terre. S'il y a des planètes qui tournent autour de l'étoile Zeta 1 et Zeta 2 dans la constellation du Reticuli, ce sont des planètes gazeuses comme Jupiter ou Saturne. C'est des planètes sur lesquelles il n'y a pas de possibilité d'avoir des formes de vie. Donc, le modèle de Betty Hill... Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ça. Mais le film de 1975, on ne le savait pas à ce moment-là. Hein?
Non.
Il a dessiné une carte, puis stellaire, puis ça pourrait s'agir de cette étoile, puis c'est mystérieux. Ça finissait un petit peu sur une note que je dirais... pro-OVNI. T'sais, on ne veut pas nous dire qu'on y croit, mais le
mais
film
se croit.
Termine en nous disant « on y croit ».
C'est ça.
Mais cela étant dit, le film est intéressant parce que à aucun moment dans le film, le docteur Simon dit « vous avez été enlevé par des extraterrestres ». On voit que tout le long du film, il les met sous hypnose. Il écoute leur récit, puis ensuite il dit ben, c'est peut-être tout ça n'est peut-être qu'un fantasme. Je ne sais pas quelle va être la tournure de ce film que nous annonce Demi Moore, mais j'avoue que j'ai très hâte de voir ça, parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup intéressé, l'histoire de Betty Barnhill. Cela étant dit, je pense qu'on est arrivé à la fin de l'émission.
J'ai
plein de choses encore à raconter.
Mais
comme des
temps
en
file,
de
mais oui.
Ah oui, c'est épouvantable. Mais bon,
ça passe vite une heure. Même pas tout à fait une heure, mais. Ça passe, mais celui là, de Steven Spielberg aussi, Disclosure Day, qui se.
Oui, j'ai hâte de voir.
Je pense que c'est en juin, là, d'après ce que je voyais. Là. Très hâte
de voir
ça aussi.
Oui, je pense que c'était le. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est l'été, là. Au cours de l'été, tu sais.
À l'époque où on sort souvent les gros blockbusters.
Toujours. Voilà. Puis un film signé Steven Spielberg, ça fait courir.
Ça va fonctionner, c'est certain. Christian Page, merci encore une fois. Je te souhaite de passer un bon week-end, puis on se reparle vendredi prochain.
Absolument. Bon week-end à tous.
Merci.
Ciao.
Bye. C'était les Radio X-Files sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
This is not a test. Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X.